lui aurait apporté des vivres. Il disait que les journalistes copiaient sur l'épaule du voisin. Nous en avions la preuve. En riant, il m'a même assuré que dans 80 ans, nos petits-enfants trouveraient les jupons de la déesse et le beau rouxelin dans de doctes travaux consacrés à la colonie, une fois que seule une poignée d'historiens locaux se passionneront encore pour ces murs. Mais pour l'heure, Ronan savourait. Au matin du mercredi 29 août 1934, deux nuits après la révolte, la maison d'éducation surveillée de Haute-Boulogne se retrouvait avec un Jules Bonneau en moins et un Léon Rouxelin en plus. Et pourtant, le compte y était. Si le récit national bélidois validait ce tour de passe-passe, personne jamais n'avait plus aucune raison de me rechercher. Pour la première fois, je me suis dit que j'allais peut-être réussir mon évasion. Chapitre 9. Aux frères de la côte. Après ma deuxième sortie en mer, le patron avait insisté pour que j'accompagne l'équipage aux frères de la côte, le café du port où nous buvions le verre de terre, comme l'appelait Ronan. Une gorgée d'eau de vie qui saluait le retour de notre sardinier. Il m'avait expliqué qu'une campagne de pêche devait s'arrêter là où l'équipage se séparait. Pas sur le pont au milieu des vagues, ni sur le quai parmi les hurlements de la criée, mais devant ce comptoir humide, un verre de gnôle entre le pouce et l'index. C'était une tradition. Le patron des frères s'appelait Cotias, un fier gaillard. Il avait été pêcheur de sardines à Palais avant un accident qui l'avait privé d'océan. Alors il avait vendu son bateau pour ce bar.
« J'aime bien ce gars. Jamais un mot de trop », m'avait expliqué Ronan.
Ce soir-là, sur ses conseils, j'avais enfoncé un bonnet de laine, monté un foulard sur mon menton et relevé le col de mon ciré. Un pêcheur comme un autre. Nous avons remonté le quai en silence et poussé la porte du café. La salle était bruyante d'hommes. Enfumée de tabac, frissonnante de légendes marines et des exploits de vieux pêcheurs aujourd'hui prisonniers du quai. Le limonadier avait le regard franc, un sourire de beau temps. Lorsque nous sommes entrés, les cinq, soudés comme à la remonte du filet, il a lancé aux clients attablés
« Mesdames, messieurs, la Sainte-Sophie !»
Il a souri et ajouté «
Même si les frères manquent parfois de dames. »
J'ai aimé sa façon de ne pas nous adresser la parole, comme l'aurait fait un patron normal à des clients ordinaires. Il a prononcé le nom du bateau et aligné nos ballons sur le comptoir, sans un regard pour nous, rajoutant pour lui un sixième verre. J'ai aimé sa manière de servir la goutte, du brutal, réservé aux équipages sauvés des eaux. Il levait et abaissait le goulot au-dessus de chaque verre.
« C'est comme ça que les Arabes servent leur thé !»
Longtemps, il avait pêché au large des barbaresques, comme il disait. De ses côtes lointaines, il avait rapporté un narguilé en verre bleu qui trônait sur une étagère et un poignard turc recourbé avec un manche en bois et un fourreau d'argent vieilli. J'ai aimé sa manière de porter un toast silencieux à notre pêche, verre posé contre son front, et les yeux clos. J'ai même aimé la fin de ce cérémonial, lorsque tout est redevenu banal, les dés roulant à nouveau sur la table, le frottement des cartes à jouer, le bourdonnement des conversations. L'ancien pêcheur assis au fond, qui jurait à sa bière qu'au temps du grand métier, la mer était bien plus cruelle. Pour la première fois, j'ai ressenti la fierté d'être parmi ces hommes. Ce jour-là, nous avions bu un deuxième verre de fine. Tout en essuyant son comptoir, Cotias le bistrotier jetait des coups d'œil inquiets vers le fond de la salle. Il était nerveux. Mon patron l'a interrogé du regard.
« Un problème. »
L'autre a désigné une table d'un coup de menton.
« T'as déjà vu ce zig dans le coin ?»
Nous nous sommes retournés.